Aventure de ma tante. Ma tante était une dame de vaste corpulence, d'une âme forte et de grande résolution, ce qu'on peut appeler enfin une maîtresse-femme. Mon oncle était un petit homme mince, chétif, délicat, d'un caractère doux et docile, et assez mal assorti à ma tante. On remarquait qu'il ne cessait de dépérir de jour en jour depuis celui de son mariage. Le génie puissant de ma tante était trop fort pour lui, il en était écrasé. Cependant, cette bonne parente prenait de lui tous les soins possibles. Elle appelait la moitié des docteurs de la ville pour le traiter, lui faisait prendre tout ce qu'ils ordonnaient et le droguait de remèdes qui auraient suffi à un hôpital entier. Tout fut inutile. Chaque dose, chaque remède ne faisait qu'affaiblir encore mon oncle, jusqu'à ce qu'enfin, il ajouta son nom à la longue liste des victimes de l'hyménée tuées par tendresse. « Et est-ce son ombre qui est apparue à votre tante ?» dit le gentilhomme questionneur qui avait déjà interrogé le premier conteur. « Vous le saurez, » répondit le narrateur. Ma tante fut bien affligée de la mort de son pauvre cher mari. Peut-être éprouvait-elle quelques remords de lui avoir tant donné de drogue et de l'avoir traité pour le tombeau. Quoi qu'il en soit, elle fit tout ce qu'une veuve pouvait faire pour honorer sa mémoire. Elle n'épargna nulle dépense dans le nombre ou la qualité de ses robes de deuil. Elle portait à son cou une miniature du pauvre homme, aussi large qu'un petit cadran solaire, et elle avait son portrait en pied toujours suspendu dans sa chambre à coucher. Tout le monde élevait sa conduite jusqu'au ciel, et on convenait qu'une femme qui honorait si bien la mémoire d'un mari méritait d'en trouver bientôt un autre. Elle partit peu de temps après pour fixer sa résidence dans une maison de campagne du comté de Derby, qui était longtemps restée sous la garde d'un vieil intendant et d'une ménagère. Elle emmena avec elle la plupart de ses domestiques, dans le dessein de faire de cette habitation son principal séjour. La maison était dans un coin solitaire et sauvage de cette province, au milieu des collines grises du comté de Derby, dont l'une présentait au regard effrayé son noir sommet, où étaient exposés dans une cage de fer les ossements blanchis d'un malfaiteur. Les domestiques de la ville faillirent perdre la tête à l'idée de vivre dans un lieu si triste et si menaçant, surtout lorsque le soir, réunis ensemble dans leur salle, ils comparèrent toutes les histoires de spectres qu'ils avaient recueillies dans la journée. Ils n'osaient entrer seuls dans ces appartements sombres et obscurs. La fille de chambre de madame, sujette aux maux de nerfs, déclara qu'elle ne pourrait jamais dormir seule dans cette vieille horreur de château. Et le laquais, jeune garçon de bonne humeur, fit tout ce qu'il put pour la rassurer. Ma tante semblait elle-même frappée de l'air solitaire de cette maison. Aussi, avant d'aller se mettre au lit, elle examina avec soin les fermetures des portes et des fenêtres, serra elle-même l'argenterie et emporta dans sa chambre les clés avec un petit coffre d'argent et de joyaux. Car c'était, comme je l'ai dit, une maîtresse-femme et qui voulait tout voir de ses yeux. Ayant mis les clés sous son oreiller et renvoyé sa fille de chambre, elle s'assit devant sa toilette pour arranger sa chevelure. Car étant, malgré ses regrets pour mon oncle, une veuve assez enjouée, elle prenait grand soin de sa personne. Elle regarda quelque temps sa figure dans le miroir, d'abord d'un côté puis de l'autre, comme font les dames curieuses de savoir si elles ont eu bonne mine. Car un écuyer, fanfaron du voisinage, avec qui elle avait joué dans son enfance, était venu, ce jour même, lui présenter ses hommages. Soudain, elle croit entendre quelque chose remuer derrière elle. Elle jette un regard sur la chambre et n'aperçoit rien. Rien que le maussade portrait de son pauvre cher homme qu'on avait suspendu au mur. Elle donna un profond soupir à sa mémoire, comme elle avait coutume de le faire quand elle prononçait son nom en compagnie, et se remit à ajuster son costume de nuit et à songer à l'écuyer. Le bruit d'une respiration prolongée répondit à son soupir. Elle regarda encore à ses côtés, mais sans rien voir. Elle attribua ce bruit au murmure du vent qui pénétrait par les brèches étroites de la vieille maison et continua tranquillement à mettre ses papillotes, quand tout à coup, elle crut voir remuer un des yeux du portrait de son mari. Tandis qu'elle lui tournait le dos, dit le conteur d'histoire à la tête dépouillée. « Vraiment ?»« Oui, monsieur, » repartit sèchement le narrateur. Elle tournait le dos au portrait, mais ses yeux en observaient la réflexion dans la glace. Je disais donc qu'elle vit remuer un des yeux du portrait. Une aussi étrange circonstance, comme vous pouvez bien le supposer, lui causa une violente secousse. Pour s'assurer du fait, elle porte la main à son front, comme pour se gratter, regarde à travers ses doigts et remue la chandelle de l'autre main. La lumière brilla sur l'œil et s'y réfléchit. Elle était donc sûre qu'il remuait. Bien plus, il semblait lui faire un signe qu'elle avait quelquefois vu faire à son mari de son vivant. Elle frissonna un instant. Elle était femme, elle était seule, et se sentait dans une position effrayante. Le frisson fut de courte durée. Ma tante, d'un caractère presque aussi résolu que votre oncle, monsieur, en se tournant vers le premier compteur, devint en un moment calme et tranquille. Elle continua sa toilette, elle fredonna même un air sans faire une seule note fausse, ouvrit un coffre de toilette, prit un flambeau et choisit tour à tour différents objets, releva une pelote qui roulait vers le lit, puis ouvrit la porte, regarda un instant dans le corridor, comme hésitant à sortir, et sortit tranquillement. Alors elle descend en hâte, fait prendre aux domestiques les premières armes qui leur tombent sous la main, se met à leur tête et revient presque aussitôt. Cette armée, recrutée à la hâte, présentait une force imposante. L'intendant tenait un vieux mousquet rouillé, le cocher un gros fouet, le laquais une paire de pistolets d'arçon, le cuisinier un énorme couperet et le sommelier une bouteille dans chaque main. Ma tante conduisait l'avant-garde avec une pelle rougie et était, selon moi, la plus formidable de la troupe. La fille suivante, qui n'avait pas osé rester seule dans la salle des domestiques, formait l'arrière-garde, respirant un flacon brisé de sel volatile et exprimant la terreur que lui inspiraient les fantômes. « Des fantômes !» dit ma tante avec fermeté. « J'ai de quoi leur brûler les moustaches !» On entre dans la chambre. Tout était tranquille et immobile comme elle l'avait laissé. On approcha du portrait de mon oncle. « Jetez à bas ce portrait !» cria ma tante. Un sourd gémissement et un bruit pareil à un claquement de dents sortirent du portrait. Les domestiques tressaillirent, la suivante poussa un faible cri et s'appuya sur le bras du laquais. « À l'instant !» répéta ma tante en frappant du pied. Le tableau fut renversé et, d'un enfoncement qu'il couvrait et où avait été autrefois une horloge, on tira un gaillard à larges épaules, à barbe noire, armé d'un couteau long comme le bras, mais aussi agité qu'une feuille de tremble. « Eh bien, qui était-ce ? Pas un fantôme, sans doute, » dit le gentilhomme aux questions. « Un chevalier de la potence, » répondit le narrateur, « épris du bien de la riche-veuve, ou plutôt un tarquin maraudeur qui s'était glissé dans sa chambre pour attenter à sa bourse et voler son coffre-fort quand toute la maison serait endormie. « En un mot, » continua-t-il, « le vagabond était un coquin du voisinage, ancien domestique de la maison, qui avait été employé aux préparatifs pour la réception de sa maîtresse. Il avoua qu'il avait choisi cette cachette pour accomplir ses projets et emprunter un œil du portrait pour faire ses reconnaissances. « Et que lui fit-on ? Le fit-on pendre ?» reprit le questionneur. « Le pendre ? Et comment cela ? » s'écria un avocat au nez aquilin, à l'air renfrogné. « L'offense n'était pas capitale. Point de vol, point d'escalade, point d'entrée par force sur la propriété. « Ma tante, » dit le narrateur, était une femme de tête et savait se faire justice de ses mains. Elle avait aussi ses idées de propreté. Elle fit jeter le coquin dans l'étang pour laver toutes ses offenses et le fit ensuite bien essuyer avec un bâton de chêne en guise de serviette. « Et que devint-il de là ?» dit le voyageur interrogatif. « Je ne sais pas au juste. Je crois qu'on lui fit faire un voyage de correction à Botany Bay. « Et votre tante ?» dit le gentilhomme interrogatif. « Je gage qu'elle eut soin depuis de faire coucher sa fille dans sa chambre. « Non, monsieur, elle fit mieux. » Elle donna bientôt après sa main à l'écuyer, car elle avait coutume d'observer que c'était une triste chose pour une femme de coucher seule à la campagne. « Elle avait raison, » dit le gentilhomme interrogatif en branlant la tête d'un air malin. « Mais je suis fâché qu'elle n'ait pas fait pendre ce coquin. » Tout le monde convint que le dernier narrateur avait conduit son récit au dénouement le plus heureux. Quoiqu'un ecclésiastique de campagne, qui se trouvait là, regretta que l'oncle et la tante, qui figuraient dans les deux histoires, n'eussent pas été mariés ensemble. Ils se seraient sans doute bien convenus. « Mais je ne vois pas, dit le gentilhomme questionnaire, qu'il y ait des fantômes de cette histoire. « Oh, s'il vous faut des fantômes, dit le capitaine de dragons irlandais, s'il vous faut des fantômes, vous allez en avoir un régiment. Et puisque ces messieurs vous ont conté les aventures de leurs oncles et tantes, je vais vous donner aussi un chapitre de l'histoire de ma famille. »